EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour à toutes. Alors, heureuse de vous retrouver en ce vendredi pour terminer la semaine avec À table avec Annabelle. Beaucoup de avec en cette fin de semaine. Et je veux terminer cette semaine en remerciant toute la famille des partenaires. Un grand merci à vous tous. Vous l'avez appris, EMCI est sur Canal Plus Caraïbes, sur la chaîne 76. Et nous sommes aussi, comme vous le savez, sur Free en France, sur la chaîne 249. Alors, ce sont des bonnes nouvelles qu'on peut vous partager. Et grâce à vous, toute notre belle famille des partenaires. Et aussi, vous partager un témoignage qu'on a reçu de Stéphanie qui a suivi le live de guérison, le live inside de guérison, quand Yveline a prié pour des problèmes d'arthrite, donc Yveline Lebeau que vous connaissez de toutes les animations de tous les lives et aussi de Bonjour chez vous. Yveline a prié donc pour contre plutôt l'arthrite et Stéphanie a été guérie. Elle nous dit qu'elle avait des douleurs. J'ai bougé mon poignet, j'avais des douleurs. Le Seigneur m'a totalement délivrée ce soir. Alors merci Seigneur et merci à EMCI TV et on se réjouit avec vous Stéphanie pour cette guérison que vous avez reçue et je crois que beaucoup aussi vous avez reçu d'autres guérisons. Alors encore une fois, n'hésitez pas à partager vos témoignages à emcitv.com/témoignages et puis si vous voulez aussi rejoindre la famille des partenaires, devenir un partenaire mensuel parce que pour nous, le fait d'être un partenaire mensuel, ça fait toute la différence dans la gestion des charges qu'on peut avoir, dans la gestion des projets, la planification. Sachant que il y a aussi des partenaires mensuels qui, à cause de différentes raisons, arrêtent leur partenariat mensuel. C'est pour ça que vous pouvez constamment venir rejoindre la famille des partenaires pour que on puisse garder une base qui soit stable et qui nous permette de pouvoir continuer d'avancer dans tous les projets, notamment le gros projet Ma Bible que nous attendons tous avec impatience. Donc vous pouvez aller sur emcitv.com/don et avoir toutes les informations. C'est très très simple de devenir partenaire. Donc n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui est dans votre cœur, eh bien vous pouvez dès aujourd'hui devenir un partenaire de MCI et nous permettre eh bien de pouvoir continuer tous ces projets et qu'on puisse encore annoncer de bonnes nouvelles et partager des beaux témoignages. Alors aujourd'hui nous sommes avec une femme qui est venue nous visiter il y a plusieurs années à l'époque dans Parole de Femme et elle est revenue dans la table avec Annabelle et nous sommes aujourd'hui avec Nadine. Bonjour Nadine, bonjour, tu vas bien?
Bonjour, je vais très bien.
Oui, avec Nadine, et bien sûr avec Nadège et avec Aurélie. On va terminer la semaine ensemble, hein, les filles. Merci, vous avez tenu le choc. Amitié, intégrité, et on est encore là en bout de semaine. Je te préviens, Nadège a dit ce qu'elle pense. Donc Nadine, tu es revenue nous voir. Merci pour ta belle visite. Merci, on est contente. On est contente de te recevoir à nouveau. Alors tu avais déjà plusieurs casquettes à l'époque, mais tu en as encore une nouvelle depuis quelques temps maintenant. Tu es pasteur, conférencière, coach, et tu es aussi pasteur de louanges et tu es aussi aumônière.
C'est bien ça.
Oui. Aumônière, et c'est sur ça qu'on voulait développer aujourd'hui, mm-hmm. qu'on voulait t'entendre. Mm-hmm. Aurélie m'a dit, ah, tu sais, j'ai revu Nadine, tu sais, elle est devenue aumônière et tout. Ah, aumônière, c'est intéressant ça. Merci Aurélie pour.
Merci à toi aussi. Merci à vous.
Et on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de savoir un petit peu ce que tu fais, en quoi ça consiste d'être une aumônière. Toi, tu es aumônière dans un centre d'hébergement mm-hmm. à Montréal qui accueille des femmes victimes de violences conjugales, donc un milieu très particulier aussi où beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs. Et tu vas nous raconter comment le Seigneur t'a permis de faire tout ça, comment ça s'est fait. Parce que c'est ça, tu avais déjà plusieurs casquettes, mm-hmm. tu étais déjà bien occupée. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que d'un seul coup tu t'es dit tiens, si j'allais en plus dans un centre d'hébergement, que s'est-il passé? Est-ce que tu as eu des heures de rajouter à tes journées, Nadine? Raconte-nous.
Oui, tout à fait, c'est vrai.
C'est vrai que tu as eu des heures de rajouter
oui,
à ta journée.
Oui, j'avoue, oui.
Ouais, ok, d'accord.
Mais c'est fou comment Dieu a fait les choses, parce qu'effectivement, ça fait depuis plusieurs années, je sentais que Dieu... j'avais un travail séculier, et plus avec toutes les casquettes que tu as dit, mais ça fait depuis 3 ans, je sentais que le Seigneur me disait... il va avoir un switch. J'avais reçu beaucoup de paroles, de prophéties. Des fois, j'allais dans des retraites ou dans des conférences. Puis chaque fois, quelqu'un priait pour moi. Il disait, il y a un shift, il y a quelque mm-hmm. chose qui va se passer. Puis dans mon travail aussi, où est-ce que je travaillais, je trouvais ça lassant à un moment donné. Mais j'ai 4 enfants. Mm-hmm. Alors, on s'entend, on a besoin d'argent. Alors, avec ça, fait que j'ai laissé ça aller. Puis l'année, il y a 3 ans de ça, j'étais en train de travailler. Puis je sentais le Saint-Esprit me dire, là, cette année, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu prennes une année sabbatique. Puis ma mère passait aussi par une période de cancer. Elle n'allait pas très bien aussi. Puis sur le coup, j'ai dit, OK, une année sabbatique avec salaire ou sans salaire. Elle dit, non, tu arrêtes ça là. Sur le coup, j'ai dit, mais non, je ne peux pas. Puis j'en ai parlé à mon mari et tout ça. Et puis par la suite, j'ai senti vraiment, tu sais, quand tu sens là, que tu sens qu'il faut que tu fasses tout de suite le choix de m'obéir. J'ai envoyé ma lettre et tout ça, je me suis arrangée et tout ça. Puis là, bon, mon boss, il m'a laissé aller. Sur le coup, j'ai dit, bon, OK, Seigneur, bon, je suis dans ma sabbatique. Qu'est-ce que je fais dans la sabbatique? Et puis justement, un ami à moi m'a dit, justement, on cherche une aumônière. Mm-hmm. J'ai dit, une aumônière. Moi-même, je ne savais pas c'était quoi une aumônière. Parce que les aumôniers, on les voit dans les prisons, dans les milieux hospitaliers. Tu sais, on les voit dans d'autres domaines. Puis j'ai dit, aumônière, oui, dans un centre d'hébergement pour les femmes. Je dis, pasteur, tu veux dire? Non, aumônière. Alors, sur le coup, bon, j'ai quand même fait l'entrevue là-bas. Puis je me rappelle, quand j'ai fait l'entrevue, à tel point que mon Dieu, il est incroyable. Hein, parce que j'avais plusieurs casquettes. Et justement, j'ai tout fait dans l'entrevue pour dire aux gens, justement, I'm not the one. Parce que je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, parce que je peux pas faire ça. À la fin de la journée, ils m'ont dit, oui, on veut te prendre. Sur le coup, j'ai dit, ah oui. Fait que la première fois, j'ai mis les pieds là-bas. J'ai dit, Seigneur, avec tout ce que j'ai donné de nom, puis ils me disent oui. Et c'est arrivé sur les lieux. Puis là que j'ai vu, c'est quoi? La souffrance, le besoin aussi, comment la foi peut vraiment restaurer des femmes que eux, habituellement, qu'on ne rencontre pas dans nos églises, parce qu'elles sont dans un trauma. Mais comment la foi vient vraiment les aider, les relever? Et moi, ça m'a shifté. Parce que le fait qu'on est habitué d'être dans une église, la louange et tout ça, on est habitué avec des gens qui connaissent déjà le Seigneur, ou peut-être on peut avoir quelques invités. Là, mais où est-ce que je travaille? Ce sont tous des invités. Ce sont tous des invités, ou bien tout simplement, ce sont des femmes qui ont connu la foi, mais leur situation précaire les ont emmenées dans un centre d'hébergement pour les femmes. Alors moi, Dieu me shift, Dieu me change, je vis l'évangile autrement, et c'est vraiment beau à voir qu'à travers toutes leurs blessures, comment la paix de Dieu, la foi, l'encouragement, un petit chant, un petit verset biblique, toujours selon eux. Parce que je ne suis pas celle qui impose, c'est qu'elles viennent à moi. Mm-hmm. Et comment c'est beau. Et là, depuis, ben, c'est ça, j'ai cette casquette-là de aumônière.
Du coup, aumônière, ça consiste en quoi exactement? Mm-hmm. Parce que c'est ça, nous, on se dit, les prisons, les hôpitaux. Qu'est-ce que ça fait une aumônière?
Une aumônière est là pour accompagner les femmes qui sont dans une crise émotionnelle et aussi qui sont à la quête de leur sens de leur vie. Alors, quand elles viennent dans mon bureau, c'est qu'elles sont en crise. Toxicomanie, quoi que ce soit, ou violence conjugale, elles sont en pleurs, elles sont en morceaux. Tu vois les bleus, tu vois les blessures. Enfin, quand moi, je les ai devant moi. Alors, tout ce que je fais, c'est que je suis une oreille attentive à les écouter. Pas de jugement. Je ne suis pas là pour leur dire « Jésus peut te sauver, Jésus peut te guérir ». C'est vraiment dans un niveau d'écoute. Et s'il y en a qui sont ouvertes à la foi, ouvertes à entendre Dieu, là je peux m'imposer, là je peux parler, là je peux leur conseiller et les écouter. Mais c'est vraiment beau d'entendre, je leur dis toujours, vous êtes des princesses. Parce que pour tout ce qu'ils ont passé, ils ont quitté leur pays ou quitté une situation conjugale terrible, violente, à tel point que la police est venue les sortir de là et les emmener dans un centre d'hébergement avec enfants. Et comment, juste une conversation, une écoute, de l'empathie. Il y en a des fois qui me disent, c'est la première fois que je raconte cette histoire parce que j'ai gardé ça tout le long. En fin de compte, je suis comme... un peu comme Jésus qui tient dans ses mains le cœur et les blessures des femmes. Alors, et dans ce temps-là, je communique avec eux. C'est vraiment de l'écoute, Si elle pleure, des fois, elle rentre dans mon bureau juste pour pleurer. J'avais juste besoin de sortir le méchant. Ou des fois, je chante. Je dis, est-ce que vous me permettez que je chante?
Oh.
Ouais. Fait que des fois, je mets une petite musique d'adoration. Puis elle dit, bon, on sait que t'es croyante, mais moi, je suis pas croyante. Des fois, elle dit, bon, moi, je suis pas croyante, mais j'aime ça entendre un peu les choses de Dieu. Fait que des fois, je fais un petit chant. Puis elle dit, ah, oh, je sens un apaisement. Puis je sais que c'est le Saint-Esprit. Je sais que c'est Dieu. Alors, et je laisse les choses aller. Puis certaines, des fois, elles disent, tu sais quoi? J'aime ça que tu me parles un peu de ton Dieu.
Mm-hmm.
Alors là, je peux être en mesure de leur donner la Bible. Ou leur donner des conseils. Ça passe par le deuil.
Ouais.
Je les aide. Mm-hmm. Alors, c'est à ce niveau-là. Fait que ce n'est pas pastoral, mais c'est vraiment conseillère en soins spirituels. Je rencontre aussi des musulmanes. Alors, dans mon bureau aussi, j'ai aussi le Coran et tout ça, parce que j'ai tout. La semaine passée, j'avais une femme juive. Je lui ai parlé de quelque chose. Puis, j'ai dit, oh, j'avais été en Jérusalem. Vous avez été en Israël? J'ai dit, oui. Puis, j'avais les photos sur mon cellulaire. Puis, en lui montrant les photos sur mon cellulaire, elle dit, mais oui, mais je connais ce coin.
Mm-hmm.
Mais, ça l'a comme éveillé, comme il y a un sens, comme il y a, tu vois, la beauté, les yeux qui s'illuminent. Mm-hmm. Alors, voilà, c'est vraiment de l'accompagnement spirituel.
Tu te fais pas, t'es jamais dans une position où tu te dis ah mais j'aimerais trop lui parler de telle chose, elle gagnerait tellement
à connaître,
voilà ça, des choses comme ça. Est-ce que tu es souvent dans cette position et comment tu fais pour gérer ça?
Au début, merci pour la question. Au début, effectivement, c'était ça, c'était tellement habitué. Mais après, avec le temps, j'ai compris que c'est it's not about me. C'est vraiment pas à propos de moi, mais c'est à propos de eux, de leur cheminement, de leur parcours. Alors, sur le coup, j'aime toujours le passage dans la parole de Dieu parce que Jésus, chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait vers Jésus, Jésus posait la question, que veux-tu que je te fasse? Mais tu vois, je suis aveugle. Tu vois quand même que je suis malade, mais Jésus questionne quand même toujours. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En fin de compte, c'est cette approche-là que j'ai envers les femmes. Alors, je dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Là, elle me parle. Alors, je viens pas dans un niveau pour imposer. Puis de là, j'entends. Et puis, par la suite, je les aide. Une des choses un organisme que je trouve qui est intéressant, qui est l'organisme de l'Armée du Salut. Eux autres, ils ont trois thèmes. Puis c'est en anglais, mais je vais essayer de le traduire un peu en français. Qui est fou, qui est salvation, qui veut dire le salut, soap pour le savon, se laver, et la soupe. Alors pour eux, les gens sont dans le besoin, ils sont dans la difficulté. Avant de leur donner l'évangile, ils ont pas de vêtements, ils ont rien, habillés, niveau soupe. Tu sais, des fois, il y en a qui se sentent pas, puis des fois, les femmes me disent, ah, je me sens pas bien. Pasteur Nadine, est-ce que t'as du savon? Puis dans mon bureau, j'ai toujours des petits savons, des petites brosses à dents, j'ai toujours des petites gugus comme ça. Puis je leur donne. Fait que c'est, après, elles s'en rappellent. Il y en a d'autres, des fois, ben, c'est pas le savon, c'est la soupe. Elles ont faim. J'ai toujours des petites brigades, des petites affaires, crackers, quoi que ce soit. Je leur donne. Puis il y en a d'un après salvation, qui est le salut. Fait qu'en fin de compte, je fais les trois. En fin de compte, je réponds aux besoins, initiales des personnes qui viennent me voir.
Ok. Et tu parlais de l'écoute. Alors, sans qu'on soit forcément aumônière, ni même pasteur ou dans le ministère, on est tous un jour appelés à écouter les gens à les écouter de la bonne façon. Mm-hmm. Et quelquefois, on est tellement concernés parce que nous aussi, on veut dire, tu vois, parce qu'on a envie de donner une solution, on a envie de partager notre expérience, notre grand savoir, etc. Comment est-ce que tu peux... quel conseil tu donnes, en fait, pour être une personne qui sait écouter?
Très bonne question. Moi, je dirais premièrement de faire taire notre voix intérieure de « je vais lui répondre ça, je vais lui répondre ça, je vais lui répondre ça ». C'est vraiment rester dans une position, tout ce que la personne va me dire en avant, je ne vais pas déjà prévoir qu'est-ce que je vais lui dire. J'écoute, même si ça vient me choquer, même si ça vient me déranger dans ma foi. Je dis non, moi je suis là pour le besoin de la personne. Je suis à ton écoute. Alors, écoute veut dire quoi? Tu regardes la personne dans les yeux. Deuxièmement, tu parais pas... Il faut pas que tu aies un visage comme stressé, comme la personne dit que je dis, oh mon Dieu! Choquée. Ben là, je t'ouvre mon cœur, mais je vais laisser tomber. Il y a cette expression-là. Aussi, avoir une, même ta posture de la manière comment tu es envers les femmes qui est ouverte. Tu sais, tu les regardes, tu poses la tête, tu fais, oui, d'accord. Ah, je comprends bien. Et même des fois, ça vient choquer. Il y en a une femme qui était me dit, car j'ai pas eu le choix, je me suis faite avorter pour telle raison. Je suis comme, oh, non, ma tête, non, tu pourrais pas. Mais après, je dis, mais pourquoi? Tu poses la question, comment tu t'en es rendu là? Sans rentrer, bon, la Bible dit, et puis, pourquoi? Puis là, quand tu entends le cheminement de sa vie, tu dis pas, ah, ok, je comprends, mais pour elle, c'est important. Fait que l'important, c'est vraiment qu'elle sente qu'on a un cœur à cœur ensemble. Qu'en fin de compte, la personne, elle prend soin de ce que je suis en train de dire. Et une écoute non-jugement, not judgmental. Dès que tu vas dans le jugement, la parole et tout ça, oh, tu les perds. Mm-hmm. Tu perds les femmes.
Moi, j'allais dire, c'est vrai que ça, c'est un conseil qu'on donne quand on reçoit des gens comme ça, même quand on est thérapeute, d'écouter. Oui. Alors, j'aimerais seulement savoir, c'est quoi votre tentation, parce que vous êtes pasteur? Mais là, vous ne devez, c'est pas la pastorale d'abord qui agit. Alors, comment vous faites pour ne pas être tenté d'être « Oh, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus, la parole de Dieu. » Comment tu fais pour ne pas sortir d'abord cette casquette de pasteur et d'enfant de Dieu d'abord?
Et
donc, comment tu fais?
Oui, moi, comme une des choses que je fais, c'est tout simplement, j'ai Seigneur, je suis devant cette femme-là, je connais la solution que je pourrais lui donner. Mm-hmm. Mais ma solution ne l'aidera pas parce qu'elle n'est pas rendue là. Mm-hmm. Son oreille n'est pas à l'évangile. Mm-hmm. Son oreille est dans des blessures et dans des traumas et dans toutes sortes de difficultés, de douleurs. Je dois répondre à son besoin, à elle. Et si par la suite, comment est mon approche, mon écoute? Puis elle sait de toutes les façons, c'est bien écrit aumônière, chaplaincy. Puis dans mon bureau, il y a plein de choses bibliques. Et tout. Puis il y a la grosse Bible qui est sur mon bureau aussi. elle le sait. Alors dans ce cas-là, quand ils rentrent dans mon bureau, ils savent très bien à qui qu'ils ont affaire. Mais je ne viens pas leur imposer. Mm-hmm. Et plusieurs, quand elles ressortent, elles disent, merci de m'avoir écouté. Des fois, il y en a qui rentrent dans mon bureau. Moi, je suis pas croyante. Je veux rien savoir de Dieu. Mais on m'a dit qu'il faut que je vienne vous voir parce que ça va me faire du bien. C'est comme ça qu'ils me répondent. J'ai dit, oui, tout à fait. Là, c'est un peu chose. Puis après, j'ai dit, mais je suis là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mm-hmm. Là, elle me parle.
J'ai encore une autre question.
Vas-y.
J'ai une autre question, j'allais te demander.
Je sais pas si j'ai bien répondu.
Oui, c'est bon. Je vais vous demander, est-ce que vous avez déjà eu des cas, surtout dans le cas des femmes battues et tout ça. Mmh. Vous avez déjà des cas où le mari vient faire irruption dans votre bureau pour vous menacer?
Très bonne question. L'endroit où est-ce que je suis en ce moment et tous les centres d'hébergement, violence conjugale et tout ça, c'est anonyme.
Okay.
Alors, on ne peut pas avoir accès, on ne peut pas donner l'adresse. Même si vous essayez de passer sur la rue, vous ne saurez même pas que c'est un centre pour violence conjugale. Les numéros sont masqués. Alors, monsieur ne peut pas savoir. Puis même si monsieur désirait, ou des fois, ce n'est pas monsieur, hein, des fois, ils font passer un membre de la famille ou quelqu'un d'autre comme ça, qui dit « Bonjour, est-ce que Nadine est là ?» Les intervenantes sur place, le personnel ne peuvent pas répondre.
Exact.
Que si un tel ou un tel n'est pas là. Fait que non, ils ne peuvent pas. Si arrive quoi que ce soit, qu'une femme, pour X raison, monsieur, c'est déjà arrivé, une femme, où est-ce qu'elle était, pour X raison, le conjoint l'a retrouvée, la police, elle embarque, puis elle la ramène dans un autre centre d'hébergement pour pouvoir la protéger.
Ok. Et est-ce que tu sens que ton expérience d'aumônière a eu un impact sur ta vie, mais aussi sur la façon dont tu exerces le pastorat aujourd'hui?
Je te dirais oui, Annabelle. Parce qu'en fin de compte, je suis avec les personnes exactement comme Jésus sur la montagne, dans le sens que j'ai pas des croyants, j'ai des non-croyants, mais avec des blessures. Alors, comment en prendre soin? Fait que je sais pas que j'étais sauvage avant, là, mais je suis plus douce. Je suis plus douce, plus empathique et plus consciente.
Ouais.
Plus consciente de la souffrance et de la douleur et de
Pas
la parole, le verset, le ceci. Là, je vois maintenant plus. OK, il y avait tout cet enjeu, il y avait toutes ces difficultés. OK, quand madame a quitté le Cameroun, puis du Cameroun, elle a passé par tel pays, tel à ça, pour se retrouver aux États-Unis, passer la frontière pour arriver ici au Canada. ah d'accord, et dans tout ça, elle a eu un viol, ah dans tout ça, tel ceci, dans tout ça, elle est allée chez son foyer, mais les gens au foyer ont dit non, retourne dans ton foyer, t'es mariée, mais monsieur là-bas, fait que c'est tout le contexte, je dis ok, on peut pas juste tout simplement frapper la parole de Dieu mm-hmm. comme ça sur les gens, mais c'est vraiment accueillir la souffrance, accueillir la douleur, accueillir leur cœur et après en mesure de cheminer avec elle. Mm-hmm. Fait que moi ça c'est, voilà comment que ça m'a transformée. En fin de compte, je vis la parole de Dieu au quotidien, mm-hmm. confrontée à des histoires que tu lis dans des livres mm-hmm. ou tu vois dans des films, ouais. mais j'ai la femme devant moi et ce qui me touche, même si elles sont croyantes ou non croyantes, c'est quand elles ressortent de mon bureau puis elles disent ça m'a fait du bien, mm-hmm. ça a fait sortir le méchant. Et il y en a d'autres qui peuvent dire, je sais que vous êtes chrétienne, vous n'avez pas un petit psaume, une petite prière que vous voulez faire pour moi. Puis je leur donne toujours le psaume 120, le psaume 23, où des mm-hmm. fois je donne aussi le psaume, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra mm-hmm. le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Puis là, des fois, ça leur touche, des fois, elles pleurent, des fois, elles comprennent absolument rien, mais, disent, mon Dieu, mais ça me fait du bien. Fait que c'est comme ça, je te dirais, que l'Évangile, elle est donnée par mon attitude, par mon langage. Des fois, je dis, Seigneur, par mon sourire, par ma compassion, qui sait qu'est-ce que ça pourrait apporter.
Et comment tu fais pour pas rentrer chez toi avec la charge, les histoires que tu vis au quotidien?
Ah, mon Dieu, Aurélie, je t'avoue, les premiers mois, j'ai trouvé ça vraiment difficile parce que je suis dans le hard, je suis dans le dur, je suis dans l'inceste, je suis dans le viol. Je suis aussi dans des femmes aussi qu'elles sont chrétiennes et elles l'ont dit à leur pasteur ou à quelqu'un de leur assemblée. On dit, mais prie, Dieu va te guérir ou qu'est-ce que tu as fait à ton conjoint? Ouais. Alors, dans ce cas-là, il y en a certaines, elles n'ont pas le choix de changer d'église, mm-hmm. puis une autre adaptation. Alors, pour moi, quand je rentrais à la maison, c'est vrai que je rentrais, je suis comme, Seigneur, mais c'est pas possible. Je pourrais pas faire cette job-là. C'est too much. Mm-hmm. Mais après, j'ai compris moi, ce qui m'aide, là, c'est quand je rentre dans ma voiture, c'est même pas chez moi. Je sors de l'endroit, je dis, Seigneur, dans ta parole, tu dis, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Mm-hmm. Seigneur, je sais que je les ai écoutés, mais toi, tu sais. Alors, je te décharge ça parce que c'est toi qui peux les aider. C'est toi qui es capable. Alors, je ne me charge pas de ce souci parce que tu es Yahweh. Tu es Dieu. Alors, je le redonne au Seigneur. Voilà, c'est vraiment ça qui m'aide pour me décharger parce que j'ai beaucoup, milliers, mm-hmm. beaucoup d'histoires. Mm-hmm. J'ai beaucoup d'histoires. Avec ça, ça pourrait aussi détériorer ma foi. Mm-hmm. Ça pourrait m'emmener à dire, mais Dieu, tu vois cette souffrance, comment ça se fait que tu n'as rien fait? Es-tu vraiment réellement Dieu? Mais je comprends comment le péché aussi a détérioré les choses. Oui, il y a eu le péché, mais le péché a détérioré aussi le niveau aussi de la violence, les relations hommes et femmes, en tout. Fait que je suis capable de faire la part des choses. Mm-hmm. Mais j'avoue, je vais être honnête avec toi, qu'il y a certaines histoires
qui restent
que je ne peux pas partager avec mon conjoint parce que c'est confidentiel, que j'ai pas choix ou d'aller dans la prière, et il m'est arrivé, je vais être honnête avec vous les femmes, parce que j'ai pleuré. Mm-hmm. J'ai pleuré de l'horreur. Mm-hmm. J'ai pleuré de comment un être humain peut être capable de faire ça à un autre être humain, ou comment un conjoint qui est chrétien, qui est capable de faire du mal à sa femme à ce point-là. Et des fois, ça vient me chercher, je suis comme, Seigneur! Mais après, il y a la paix de Dieu qui vient me ressaisir et qui dit, je suis en contrôle, toi, fais ce que je te demande de faire. Sois cette oreille, sois moi pour eux.
Et tu disais, tu vois, que certaines femmes se sont ouvertes dans leur église, n'ont pas forcément eu de conseils. Alors après, on comprend que les églises sont pas forcément remplies de professionnels, que les pasteurs sont pas forcément... je veux dire, quand t'es appelé au ministère de la parole, t'es pas forcément appelé à être un thérapeute, un aumônier, un conseiller, etc. Même mm-hmm. si t'es capable, normalement, tu dois être capable de pouvoir conseiller un minimum. Mais là, je parle pas de ça. Je parle vraiment d'endroits où il y a pu avoir des mauvais conseils, il y a pu avoir on ment au cours, on veut pas en entendre parler, on ça. Fait des dénis, etc. Toi qui es pasteur aussi, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui aux églises? Comment est-ce que on peut s'équiper, même si on n'est pas des professionnels, même si on veut pas changer la vocation de l'église, mais qu'est-ce que l'église aujourd'hui peut mieux faire pour répondre et accueillir ces femmes qui sont en souffrance?
Ah, ce que je dirais, c'est vrai qu'on a un mandat. Il y a un mandat pastoral, il y a des mandats, il y a les médecins, il y a les psychologues, il y a les psychiatres. Je pense que dans notre mandat pastoral, moi, je suis fière d'avoir ce mandat-là, qui est au niveau de la spiritualité et de la foi. Mais quand je vois que ça va au-delà de mon mandat et je suis des femmes en ce moment comme ça, je les réfère à un psychiatre, je les réfère à un professionnel de la santé, je les réfère des fois à une intervenante. Mm-hmm. Je me rappellerai toujours de cette femme-là que je vais taire son nom, qu'elle a passé par le viol terrible et elle était mariée et tout ça. Et puis, elle se sentait plus femme parce que sexuellement, monsieur a vraiment été au-delà de ce qu'il fallait, puis elle avait besoin de se reconstruire au niveau intérieur. Fait que j'ai dû emmener un psychiatre. Elle est restée avec moi concernant pour les soins spirituels, mais j'ai dit là, ce trauma-là va au-delà de mes capacités. L'Église, les communautés de foi, nous, les femmes qui sont croyantes, embrasons ces femmes-là qui sont dans la souffrance, mais si c'est la prière, je peux que te donner de la prière, mais je te réfère à telle personne. Puis on a des psychologues chrétiens, on a des psychiatres chrétiens, mais il faut pas avoir peur de ces gens-là parce qu'ils sont dans leur domaine, ils sont capables d'aider. Oui, la prière, oui, la guérison, oui, la parole de Dieu. Je suis la première qui va qui va promouvoir ça. Mais mon Dieu, que ça fait du bien que eux autres peuvent emmener un cadre qui est au-delà que nous, notre limite. Et des fois, on peut dire des choses. On s'y connaît pas. On connaît pas comment est la gestion des émotions. Il y a certaines qui sont sous médication. Elles ont besoin de leur médication pour pouvoir rester dans leur équilibre. Si elles prennent pas leur médication, elles sont bipolaires ou elles ont des problèmes de santé mentale. Il y a une raison pour laquelle que les médecins leur donnent une médication. Puis là, on dit non, tu la prends pas. Mais après, la madame est déstabilisée. Tu la retrouves plus. Puis c'est pas bon pour les enfants qui voient ça, qui disent, mais ma maman, elle est instable. Moi, je dis toujours, merci Seigneur pour l'épidurale qui, je sais pas c'est quel médecin qui a, quel médecin qui a donné ce médicament, mais Seigneur béni soit son âme.
Celle qui a eu 4 enfants.
Pour celle qui a eu 4 enfants. Moi, je bénis toutes les femmes qui ont réussi à accoucher sans ça. Chapeau.
Moi. Bravo.
Ah, bravo.
4 aussi.
Ah, ma sœur. Ah non, moi, il fallait. Sans ça, je pense que j'y passerai pas. Et moi, ça m'a permis de pouvoir avoir mes 4 enfants, puis être la femme avec qui que je suis, avec vous. Mais il y a certaines personnes, elles ont besoin de leur médication pour rester stable. Oui, on prie, bien la médication. Et voilà ce que je dirais. L'Église doit être une communauté ouverte, une communauté qui ne doit pas avoir peur de la souffrance, avoir peur des femmes qui vivent de la violence conjugale. Il y a aussi des hommes. Là, je sais qu'on est dans Annabelle à table, on est beaucoup avec les femmes. Il y a des hommes aussi qui vivent de la violence. Mais l'Église doit embraser ça. Et là, nous, dans notre limite pastorale, qu'on voit où est-ce qu'on ne peut pas, référons, tout simplement. Non pas pour paraître qu'on we handle it. Non, c'est la personne. It's not about us. It's about the person.
Ça m'a rappelé quand je suivais mes cours de Christian Counseling. Je suis thérapeute, les filles.
Certifiée. Nice.
Ça m'a vraiment intéressée. Parce que quand on suivait des cours, une fois, le professeur nous dit que en tant que thérapeute chrétien, même si je suis chrétien, tu es d'abord thérapeute. Alors, si dans le cas où...
Dans l'exercice de mes fonctions.
Même si je suis thérapeute chrétienne, dans l'exercice de mes fonctions, quand une femme arrive, qu'elle a subi de violences physiques de la part de son mari et tout ça, je l'écoute, mais je dois signaler à la police. Voilà. Alors, parce que, pourquoi? Si il se fait que la femme, finalement, quand tu l'as conseillé, elle dit, bon, je rentre dans mon foyer, l'homme va changer, elle rentrait dans son foyer et que la violence revient une nouvelle fois. Et si cette femme va à la police et qu'on lui dise, la première fois quand c'est arrivé,
voilà,
tu étais où? Tu en as parlé à qui? Alors, si elle cite le nom de la thérapeute, on va vous arrêter. Mm-hmm. Parce que il faut signaler. C'est pour ça que j'ai dit en même temps, c'est dangereux. C'est pour ça que j'ai dit à l'église, comme elle a dit vraiment Nadine, quand ça arrive, vaut mieux signaler à un professionnel. Parce qu'on peut vous arrêter, comme ça vous comprenez pas, la police est arrivée à l'église. Pourquoi? Parce que vous vous êtes mis à la place d'un professionnel.
Voilà.
Où vous avez dit à cette personne, parce que si la police entend tout ça, quelqu'un qui pleure, qui a vraiment de choses,
oui.
Vous l'envoyez pas à l'hôpital, mm-hmm. Vous dites seulement on va prier.
Oui.
Vous priez, on rentre à la maison. Non, vous serez arrêté. Alors, moi, vraiment, à partir de ce cours-là, j'ai dit, oui, on va prier. Surtout, j'ai prié surtout pour la paix. Mm-hmm. Parce que ces femmes-là qui ont subi des violences sont perdues. Elles perdent même l'estime de soi. Moi, je trouve qu'il faut prier d'abord pour cette personne qu'elle se retrouve. Mais il faut signaler, mm-hmm. parce que sinon, on peut être arrêté. Alors, vraiment, je donne les conseils aussi à nos pasteurs à l'église qui pensent toujours qu'il faut prier, mais il faut toujours signaler parce que la personne peut rencontrer un autre accident, mais si la personne mourait et qu'on découvrait que vous avez conseillé à cette personne de rentrer dans son foyer malgré les violences, sans signaler à la police, on vous arrête.
Mm-hmm. Oui, et c'est tellement, ici au moins, au Québec, Canada, c'est certain qu'ici on a des lois. Mm-hmm. Permet de protéger femmes et enfants à ce niveau-là. Mais vraiment, les femmes, quand elles viennent, moi, je les vois. Puis quand elles me disent, j'étais dans une église, je vous avoue, j'avais envie de prendre mon chapeau parce que elle dit, mais elle dit de retourner au foyer. Elle est retournée au foyer, elle a dû se sauver. Il y en a certains, elles ont pas juste de sauver et appeler la police. Mais quand j'entends qu'il y a un pasteur, quoi que ce soit, mais je comprends que c'est pas tous les pasteurs qui ont les outils.
Non, ils savent pas.
Ils savent pas. Puis, pas d'infos. Puis, on est dans notre mandat. On va prier.
J'ai fait ce à quoi
Et voilà, ce à quoi.
La compétence.
Effectivement. Oui. Mais dans des cas comme ça, effectivement, il faut absolument référer. Et je veux encourager les pasteurs aussi pour dire, oh, est-ce que c'est une forme que je vais briser le foyer? Je vais emmener la femme à divorcer de son mari ou quoi que ce soit? On va me rendre imputable de ça? Mm-hmm. Moi, je dis à ce niveau-là, non, il faut pas aller là. C'est madame et monsieur qui prendront la décision. Mais pour le moment, il y a une crise, il y a un trauma. La madame a des bleus. Psychologiquement, on voit que ça ne va pas en tant que chrétien, qu'en plus les chrétiens, on nous a demandé, on est des personnes de paix, mm-hmm. on est des personnes qui sommes reconnues, qu'on doit prendre soin des gens, alors ça doit être mis en place. Une personne en danger, quel que soit enfant, femme ou homme, en tant que chrétien, on doit en prendre soin. La personne a faim, donne-lui à manger. La personne a besoin de vêtements, donne-lui les vêtements. La personne, elle a besoin de salvation, la foi, l'évangile, tu lui donnes l'évangile. Mais si, Seigneur, la personne, elle est en danger, il faut intervenir et y aller. On n'est pas capable de dire des choses. Des fois, il vaut mieux rien dire. Si on mm-hmm. voit que...
Oui.
Des fois, il vaut mieux rien dire à la madame. Tu la prends dans tes bras ou tu la consoles le mieux que tu peux, mais tu y réfères. Mais ne rien dire face à la douleur, face à la souffrance, parce que à cause de tel verset biblique, parce qu'à telle affaire, je veux pas être celui qui brise le foyer. Mais que fais-tu de cette femme? Sa dignité, son estime de soi est brisée. Et quelquefois, il y en a certaines, elles veulent plus retourner dans la foi, parce que tout simplement, elle m'a dit, mais non, regarde qu'est-ce que l'Église m'a emmené. J'ai écouté, elle laisse tomber. Et des fois, je les aide à faire la différence entre la foi et les personnes, comment ils ont agi avec toi. Et je leur dis, ne te fâche pas non plus envers ces personnes-là, parce qu'elles n'avaient pas les outils.
Annabelle, pardon, Aurélie, j'allais dire, est-ce que, en même temps, je me dis, c'est tellement,
et c'est délicat, hein.
C'est tellement délicat, c'est délicat. Aussi pour les églises, parce que je connais un cas à Kinshasa, une dame, elle subissait des violences conjugales presque tous les jours. Alors, lorsqu'elle allait pour parler, peut-être sa responsable dans le ministère des femmes, elle lui disait, on va prier. Elle priait avec elle. Ça va aller, va changer. Rentre dans ton foyer. Et à chaque fois, c'était ça. Et cette femme, elle est décédée.
Mmh. Voilà.
Mmh. Alors, je me suis dit, allez, rentre dans ton foyer, prier. Ça l'a amenée à la mort. Et en même temps aussi, en tant que serviteur de Dieu, c'est tellement délicat. Tu te dis, est-ce que je peux prendre... ai-je cette autorité de dire à cette dame de ne plus rentrer chez elle? C'est quand même délicat. Des fois, c'est vrai qu'on est face à la souffrance... On doit faire quelque chose, mais des fois, les gens sont comme bloqués, surtout les pasteurs, tous ceux qui sont dans le service du Seigneur. Ils savent pas, est-ce qu'ils ont cette autorité de dire à cette personne de ne plus rentrer dans son foyer? C'est là où il y a le problème. On ne sait pas toujours, les pasteurs ne savent pas toujours qu'est-ce qu'il faut dire à cette personne. Priez pour cette personne. Peut-être il se résume à prier parce qu'il dit, c'est tout ce que je peux faire pour cette personne. Parce que la personne qui va décider de rentrer dans son foyer, ça doit aussi être cette personne qui est battue. Parce qu'en même temps, cette personne, c'est une personne adulte. C'est pas à moi de lui dire si elle doit rentrer. Parce que si elle veut plus, parce qu'elle souffre tellement, elle va plus rentrer. Mais quand les gens, parce qu'il y a cette lâcheté aussi de la part des gens, quand ils viennent à l'église, ils veulent que le pasteur leur dise que tu dois divorcer dans ce cas. Non, les gens sont adultes. Moi, j'ai dit toujours, celle qui avait choisi d'aller dans ce foyer-là, c'est toi. Alors, celle qui doit décider aussi de sortir de ce foyer-là, doit être toi. Ça moi, je ne peux pas prendre cette décision à ta place. Mais tu dois lui montrer le bien et le mal, comme Dieu lui-même nous a... Le Dieu Tout-Puissant nous a créés avec le libre arbitre. Mm-hmm. Il nous montre le bien, il nous montre le mal. Et c'est à nous de choisir. Dieu lui-même laisse de choisir.
Mais ça, c'est la responsabilité, c'est de montrer les options. Parce que je pense que beaucoup de femmes, déjà en souffrance psychologique et physique, on leur a réduit toutes leurs opportunités. Oui. C'est comme ça que des femmes restent captives aussi. Parce que c'est facile de dire, sors de ton foyer. Faire quoi? Aller dans la rue. J'ai pas de moyens.
Il y en a qui travaillent pas.
J'ai même pas de papier, etc. Donc c'est de dire, il y a des options. Et de se rendre compte, je pense que aussi en tant que personne ministère ou peu importe, même amie, c'est de se rendre compte de mes limites. Et justement, quand je me rends compte de mes limites, c'est de dire, moi, je sais pas quoi faire de plus pour toi, mais il y a des gens qui vont savoir quoi faire. Il y a d'autres gens. Et ça peut être la meilleure aide qu'on peut apporter parce qu'on se dit, moi, je peux rien faire. Du coup, on s'arrête là. C'est de dire, si moi, je suis pas outillée, quelqu'un d'autre a les outils. Et c'est ça aussi de dire les options. Je peux pas divorcer pour toi. Je peux pas te dire de divorcer. Mais maintenant, je peux te dire, tu as le droit de quitter un foyer où tu es maltraité. T'es pas en train de la violence, tu as le droit de partir parce que ta propre vie, la vie de tes enfants est en danger. Est-ce que je peux t'aider d'une quelconque façon? Mais on peut pas forcer non plus. Les gens à prendre ces décisions, mais se rappeler que, il y a des femmes, elles savent pas, en fait, qu'elles ont un choix.
Oui, c'est vrai. Est-ce que, du coup, dans tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, est-ce que tu as des happy endings, des personnes qui ont vraiment bien tourné suite à tout ça, avec les conseils que tu as pu apporter? Est-ce que tu peux nous dire un cas aussi comme ça? Parce qu'on va voir peut-être que quand les gens viennent vers nous, parfois on est impuissant, mais il faut qu'on réalise aussi à quel point c'est possible, tu vois. Est-ce que tu as eu une histoire comme ça?
Oui, j'en ai. Puis je vais faire une petite parenthèse avant de répondre. Moi, je pense qu'en tant que leader ou pasteur ou quoi que ce soit, une chose qui est importante, c'est de se former. Moi, je me suis formée, je suis pas juste restée pasteur. J'ai pris des cours aussi pour le niveau du suicide. Comme ça, il y a certaines personnes qui sont devant toi, de la manière, comment ils peuvent se comporter. Tu vois, la personne, elle a des idées suicidaires. Tu sais, il y a ce côté là aussi qu'il y a plein de choses qui sont offertes à travers. Allez vous former, les leaders, les pasteurs, pour être en mesure de pouvoir bien orienter à ce niveau-là. Plus qu'on a des outils, plus qu'on est capable de cerner quand quelqu'un est à côté de nous, que je peux lui donner l'évangile, la foi, mais elle a besoin d'un psychologue, elle a besoin d'un psychiatre, elle a besoin de telle affaire. Je pense qu'on a des beaux outils à prendre. Puis les happy endings, oui, j'en ai. Oh, mon Dieu, oui.
Gloire à Dieu.
Oh oui, j'en ai. Et je vous dirais, c'est mes petits bonheurs. Qui me permet que j'aime cet emploi-là que je fais en ce moment. Oui. C'est des femmes qu'ils ne voulaient pas rentrer dans mon bureau parce qu'ils ont vu aumônière. Ils ont dit non, on va rien savoir. Dans mes événements, dans mon approche, quand je suis dans les bureaux, je les vois, je dis bonjour. Elles disent, elle a l'air pas si coincée que ça. Elle. Parce que quand ils pensent chrétien, croyant, ils pensent vraiment qu'on est super judgmental. Oui. Et puis, ou bien quand je passe, je dis bonjour, mon nom est Nadine. Ah, vous êtes la pasteur, l'aumônière, là. On me donne toutes les titres. Là, je dis oui, c'est bien moi. Puis là, ils me voient un sourire, ils disent, mais j'ai un beau sourire. Je dis, mais vous aussi. Aussi, quand je les vois avec leur enfant, j'ai dit, comment ça va, Coco? Comment ça va, Cocotte? On parle, puis il y a comme un petit lien qui se fait. Papa, à un moment donné, il dit, peut-être j'ai envie de lui parler à elle. Là, il rentre pas dans mon bureau. On parle dans le corridor. On n'est pas encore prêt de rentrer dans le bureau. On crée un lien de confiance. Là, elle voit que c'est ouvert. Après, quelqu'un frappe à mon bureau, je dis, bonjour! Moi, qui est la personne que j'aurais jamais cru. Elle rentre. Je me sens de parler. On parle. On discute. Pas de la foi, sa vie, elle a juste envie d'avoir une oreille attentive. Puis par la suite, un petit cadeau, c'était une maman, elle est venue frapper à ma porte une journée, et puis elle me dit, j'aimerais ça connaître Jésus. Là, sur le coup, je suis comme, je suis restée vraiment in shock parce que j'ai pas vu qu'on allait arriver là. Pour le peu de rencontres qu'on a eues. Puis, à tel point, j'avoue, j'ai dit, est-ce que vous voulez répéter? Oui. Puis elle a répété, elle a dit, le Seigneur m'a parlé, j'étais dans ma chambre, wow. Puis il y a comme une image de Jésus. Avez-vous une Bible? Je veux voir la prière du salut. Mais elle a pas dit la prière du salut, elle a dit la prière, qu'est-ce que je dois faire? Là, c'est dans le pied de la, entre ma porte et mon bureau, j'ai fermé la porte. Et puis on a fait la prière du salut, wow. Elle a pleuré. Et puis je lui ai donné la Bible, et puis quelques semaines plus tard, ben, elle a trouvé un logement, parce qu'on priait pour un logement. Fait que des fois, moi, les gens qui rentrent, je veux prier pour un travail, je prie avec eux pour un travail, où je les soutiens là-dedans. Puis elle a trouvé la prière du salut. Après, par la suite, la prière du salut, elle a trouvé son logement. Et puis voilà, on a gardé contact un tout petit peu, mais de temps en temps, qu'est-ce qui me fait mal, c'est quand je peux pas garder plus de contact avec eux, mais après je les relâche, puis je les mets dans les mains de Dieu. Ouais. Mais il y a des beaux, il y a des belles histoires. N'ayez pas peur des femmes qui ne connaissent pas Dieu. Par votre posture, par votre joie, par ce que vous êtes, vous pouvez pas savoir comment vous pouvez les impacter. Même si vous n'avez pas la solution à leur souffrance, mais votre témoignage de ce que vous êtes peut être leur solution pour maintenant dans la difficulté qu'elles sont. Alors n'ayez pas peur de ça.
Merci beaucoup Nadine, c'était hyper inspirant et aussi je pense très instructif pour les églises. Donc beaucoup de peut-être de remises en question, de choses à faire, de choses à ne plus faire aussi. Mais en tout cas une chose est certaine, c'est que Jésus sauve et que Jésus veut aussi consoler, venir en aide à travers toutes ces personnes. Il a dit je ne suis pas venu pour les bien portants mais pour les malades. Alors si vous avez cette porte ouverte dans votre vie de pouvoir aller servir votre communauté et que ce soit en dehors de l'église et que vous sentez que c'est le plan de Dieu pour votre vie, allez-y et n'ayez pas peur de ne peut-être pas avoir toute la latitude que vous voudriez avoir pour exprimer clairement le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus se proclame, c'est certain, mais il se manifeste aussi, il se montre et il se transmet à travers des actes, à travers l'amour, à travers la paix que vous avez. Donc n'ayez pas peur de répondre à ce mandat comme Nadine a pu le faire. Et merci d'avoir terminé. Merci Aurélie d'avoir posé la question, qu'on ait pu terminer sur un beau témoignage. Et vraiment félicitations Nadine pour ce pas de foi que tu as pris, ce changement cette nouvelle casquette que tu as prise. Que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais et qu'il continue de te porter dans tous ces projets. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine, lundi. On vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.